Vous savez, la charge d'une église, c'est finalement le plus difficile pour nous. Parce que prêcher la parole de Dieu, on n'a répondu qu'à un appel lancé par le Seigneur, et on le fait avec joie et bonheur. Mais le plus lourd, c'est la direction d'une assemblée, c'est la responsabilité des âmes, de l'œuvre que Dieu nous a confiée. Alors quand on prend la retraite, écoutez, ça fait 4 ans aujourd'hui. 4 ans aujourd'hui. Eh oui! Voilà, c'est mon épouse qui me l'a rappelé, j'y pensais plus moi. Elle m'a dit, mais ça fait 4 ans aujourd'hui, 1er mars. 1er mars 2016. Hop, 2020, on y est, 4 ans. Ça passe vite, très vite, en tout cas. Alors, je bénis le Seigneur de ce que, en tant que serviteur de Dieu, eh bien, nous ne sommes pas au chômage, ni à l'arrêt, ni à la retraite effective, pleine, mais nous le servons de tout notre cœur. Il nous utilise toujours, et c'est un bonheur. Gloire à Dieu. Je reconnais quelques visages, mais il y a beaucoup de visages nouveaux. Peut-être que pour vous aussi, je suis nouveau. Non, je me suis converti un jour, hein. J'ai fait une expérience personnelle, une rencontre personnelle avec Jésus, et c'est ce qui a, eh bien, dicté ma vie jusqu'à ce jour. Ça fait combien maintenant? Ça fait quelques années, hein. En 85, je me suis converti. Voilà. Auparavant, même quand je me suis converti, j'étais pompier professionnel. Ancien pompier de Paris également. Voilà, ça c'est ma vie. Et je ne vous parle pas de ce qui s'est passé avant, parce qu'il y a encore des choses. Mais ce qui est important, c'est la rencontre avec Jésus. Amen. Alors avant que j'oublie, mon épouse me dit, tu n'oublies pas de saluer de la part du pasteur de l'église d'Arles, le pasteur Emmanuel Insinga, hein, et puis de l'église d'Arles, où nous avons des frères et des sœurs, et où nous, eh bien, nous avançons avec eux, dans la grâce de Dieu, parce que c'est une grâce que de vivre sous le regard de Dieu. Vous voulez ouvrir avec moi l'Écriture, la parole de Dieu, dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 16, et puis au verset 1er. Ézéchiel 16, verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Héthienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus, baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 000 000, comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis d'huile avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés, une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent. Et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais ornée, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confiée dans ta beauté, tu t'es prostituée à la faveur de ton nom, tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livrée à eux. Amen. On va arrêter là notre lecture, on ira un petit peu plus loin tout à l'heure. En tout cas, au verset 3, nous lisons, Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan, ton père était un Amoréen et ta mère une Éthienne. T'en rappelles, hein, le Seigneur fait un rappel, il est adressé à la ville sainte, donc à la Jérusalem, alors qu'elle était en période, je dirais, de déclin spirituel. Ce n'est pas que Dieu, bien sûr, prenne plaisir ou veuille avec mépris rappeler à chacun d'entre nous notre origine. Je sais d'où je viens. Certainement que vous avez encore, vous aussi, le souvenir de ce que vous étiez avant de rencontrer le Seigneur. Bien souvent, c'est avec tristesse qu'on dit, oui, si je l'avais connu avant, ça, je n'aurais pas fait jamais. Je n'aurais jamais touché à ça. Je n'aurais jamais eu de telles pensées. Et oui, c'est comme ça. Alors, bien sûr, par cette allusion, te rappelle, mais il saisit l'opportunité, je dirais, de dire à chacun d'entre nous que sans sa grâce, personne ne peut être son enfant. Amen. Nous sommes des enfants légitimes du Seigneur. Alléluia. Il nous a rachetés par grâce. Je dis souvent que le salut, c'est une œuvre d'amour entre Dieu et nous. Il nous a aimés. Et parce qu'il nous a aimés, il a agi. Il a fait ce que nous n'aurions pas été capables de faire. Il nous a transformés. Il a fait le miracle. Amen. Même Jérusalem, ville symbole par excellence du siège divin, la présence de Dieu, n'est pas exempte de cette règle générale. La ville, pour rappel, a des origines cananéennes, elle n'est devenue israélite que sous David. Quant au peuple d'Israël lui-même, il a son origine en Mésopotamie, vous lirez Genèse chapitre 11 et puis également Deutéronome chapitre 26. En tout cas, un constat que tout homme doit faire, personne ne naît chrétien, même la religion ne peut conférer cette vertu à qui que ce soit. Je suis devenu par une rencontre personnelle avec mon Sauveur. Celui qui a choisi de livrer sa vie en sacrifice pour moi. Amen. Les amis, cet après-midi, passeront par les eaux du baptême, là sous mes pieds. Parce que c'est là le baptistère. Hein? Parce qu'ils ont fait une rencontre avec Jésus. Parce qu'ils ont été placés devant un choix. Et ce choix, ça a été de dire « Oui, Seigneur ». Pourquoi ? Parce que nous savons d'où nous venons. Je le rappelle. Eux s'en souviennent, c'est tout frais. Certainement qu'il y a eu des larmes quand ils ont réalisé le sacrifice, la mort expiatoire de Jésus, la souffrance du Fils de Dieu pour eux. Amen. C'est cela. Je nais perdu, je rencontre le Seigneur et je fais partie des sauvés. Amen. Jésus disait aux pharisiens dans Luc chapitre 3, verset 8, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Un peu plus loin, ils vont lui répondre dans Jean chapitre 8, verset 39, ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Et Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Et au verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'est pas de la il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Ah, nous avons tous vécu sous son pouvoir. Non ? Même s'il n'avait pas fait un pacte avec le diable, j'ai été enfanté dans l'iniquité et dans le péché. Et oui. Et lui, c'est le menteur. Il est le père du mensonge. Il sait mentir, hein ? Et oui. Le Nouveau Testament nous montre que la nouvelle naissance, eh bien, elle est indispensable. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Amen. Tu es un élu du Seigneur. Alléluia. Tu fais partie des rachetés de l'Éternel, dont tu as du prix à ses yeux. Tu as une valeur inestimable. Comment estimer la valeur du salut dont je suis le bénéficiaire? Le prix de la vie de seul innocent que la terre ait connu. Le Fils de Dieu, le Sauveur. Amen. Alors, en rappelant à Jérusalem son origine, voilà que Dieu, par le prophète Ézéchiel, met le doigt sur les soins élémentaires, eh bien, qu'elle n'a pas eus. Et je vais faire un parallèle. Parce que le parallèle est possible entre cette situation et celle qui est la nôtre, hein, tout simplement. Par naissance, beaucoup ont été privés de ce qui est indispensable, de ce dont même, je dirais, les meilleurs parents ne peuvent être capables de gratifier leur enfant. Et quand on comprend l'enseignement spirituel, quand on est mis en contact avec la parole de Dieu, avec la vérité, mes amis, hein, on voit et on constate que ce qui se cache derrière des allusions qui ne semblent à première vue qu'humaines, il y a une importance, je dirais, grande. Très grande importance. Alors ce qui suit peut désigner quatre sources de frustration pour toute personne qui vit sans la foi dans le Seigneur. Premièrement, ton cordon n'a pas été coupé. Cordon ombilical. Bien sûr, on le dit à la maman, hein, allez, coupe un peu le cordon, laisse ton fils et ta fille un peu. Hein. Et oui, ton cordon n'a pas été coupé. En tout cas, le cordon ombilical, on sait qu'il sert à l'enfant à le rattacher à sa maman avant qu'il naisse, justement, afin de le nourrir et d'entretenir cette vie. À sa naissance, il doit être coupé. Et David disait, dans le psaume 51, verset 5, « Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Amen. David. Nous avons tous entendu parler du roi David, de ses exploits formidables, de quel homme également, un modèle, des fois mauvais modèle, mais la plupart du temps, ce que l'on doit retenir, c'est qu'il a été un bon modèle. En tout cas, ce que je constate, c'est que lui aussi s'adresse à Dieu. Il montre qu'il a besoin de lui. Et sans un miracle de Dieu, il n'aurait pas pu être ce qu'il est devenu. Et c'est vrai que sans un miracle de Dieu, tout homme reste esclave de sa nature. Et je dirais d'une manière de vivre héritée de ce monde dans lequel nous sommes nés. Nous savons que ce monde a été vendu au péché, vendu à l'adversaire, au diable, à l'ennemi de nos âmes, à celui qui ne désire que la mort. Comme cela, nous mourrons reliés par une sorte de cordon ombilical, justement, qui nous rattache à un passé duquel on ne peut ni se détacher, ni rompre, bien sûr. Vous entendez les personnes qui le disent, mais c'est plus fort que moi. Je me sens obligé de le faire. Vous avez des personnes au tribunal devant le juge qui disent, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pété un plomb, et voilà où j'en suis aujourd'hui. C'était plus fort que moi. Parce qu'on est rattaché. On est lié. Voilà que par la conversion et la régénération, eh bien, ce miracle est possible. Je deviens une nouvelle créature. Amen. Il y a donc une coupure avec, je dirais, l'ancien placenta et une entrée dans une nouvelle vie avec un cordon qui va nous relier cette fois-ci à Dieu. Amen. La source, l'essence, l'origine de la vie, c'est lui. Et si je veux vivre heureux, épanoui, si je veux réjouir le cœur de Dieu, il faut que je sois relié par ce cordon. Amen. Allez, que je sois branché avec lui, comme disent les jeunes. Hein. Et oui, parce que c'est cela. Hein. Amen. Deuxième chose, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Un nouveau-né est lavé, hein, tout simplement, après sa naissance. Il faut qu'il soit débarrassé des impuretés, également des traces de sang qui maculent son corps. Alors, celui qui ne connaît pas Jésus demeure, lui, dans son impureté, dans sa culpabilité. Eh oui. C'est terrible de vivre comme ça. Vous savez ce que je veux dire, parce que nous étions comme ça tous. Hein. J'ai vécu dans le péché. J'ai fait des choses que je regrette aujourd'hui. Des choses qui nous font rougir. Heureusement qu'il y a eu le miracle pour moi. Et pour d'autres, peut-être que ce n'est pas le cas. Mais il faut qu'il y ait le miracle. Il faut que tu rencontres Jésus. Il faut que tu fasses la paix avec Dieu par le sang de l'agneau. Amen. Il faut que ce sang te lave et te purifie de tout péché. Alléluia. Il faut que tu sois lavé. Plongé. Tout simplement dans cette eau, la parole de Dieu. Troisièmement, tu n'as pas été frotté avec du sel. Cette pratique de l'époque avait pour objectif de purifier la peau et de la fortifier. Hein. L'homme sans Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il demeure fragile. Son épiderme reste vulnérable et sensible, je dirais, à la moindre égratignure, qui peut se transformer, vous savez, en infection. Si vous ne soignez pas une plaie, vous avez des risques d'infection. Ça peut aller jusqu'à la gangrène. Hein. Ça peut aller beaucoup plus loin encore. Mais en tout cas, par la suite, nous voyons que le sel de la grâce de Dieu, eh bien, va conférer ce que la vie n'a pas pu nous donner, ce que la vie naturelle n'a pas pu nous donner. Amen. à la naissance, lorsque nous sommes reliés au Seigneur, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas, à la nouvelle naissance, bien sûr, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je reçois une vie d'en haut. Mais quelle vie, mes amis! Cette vie qui me rend capable de dire que ça, c'est pas bon. Vous voyez? Un état d'esprit nouveau aussi, des pensées nouvelles, des penchants qui sont tout autres. Alléluia! Je suis transformé. Je suis né de nouveau. Amen. Voilà la vie nouvelle qu'elle me donne, c'est d'être en liaison, en communion avec le Seigneur et de vivre selon tout simplement ses pensées à lui. Paul le souligne quand il dit dans les Colossiens chapitre 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et ça tranche. Souvent, je dis que le chrétien, il est hors norme, de ce monde, bien sûr. Eh oui. Le monde a ses pensées, il a ses penchants, il a ses pratiques. Et le chrétien, ben, il dit non. Et on dit, mais qui c'est celui-là, d'où il sort, de notre planète? Non, planète Terre. Mais il vit sous la grâce de Dieu. Il vit dans l'amour du Seigneur. Amen. Je repense Colossiens chapitre 4, verset 6, dans la parole vivante. Palais-leur de la grâce, avec amour, mais sans fadeur, afin de gagner leur cœur. Apprenez à répondre avec à propos et selon les besoins de chacun aux questions que l'on vous pose. Amen. Parce que dès que vous commencez à dire « Ah ça, je ne peux pas y toucher, moi je suis chrétien », c'est là que ça commence. C'est quoi chrétien? Il faut répondre. Et pourquoi tout le monde le fait? Et toi, tu ne le fais pas? Eh bien non. Alors on va apprendre à répondre avec à propos. Et puis le Seigneur va nous montrer les besoins de ces personnes en face. Et je dégage le parfum de Christ. Pour eux, c'est une odeur de mort. Parce que leur péché les condamne. Donc, j'ai besoin, moi, de garder le cap. Alléluia. C'est pourquoi il faut que, eh bien, accompagné par la grâce de Dieu, je manifeste ce que je suis, le sel de la terre. Amen. Que je donne de la saveur à ce monde. Alléluia. Et vous savez, c'est le langage de la croix qui ajoute, je dirais, ce sel indispensable à la vie, puis également va nous fortifier. Amen. J'ai été pardonné. Oui, je suis un pécheur, mais racheté par grâce. Je suis passé par la croix. Alléluia. J'ai été placé au bénéfice de la mort expiatoire du Fils de Dieu. Au premier abord, ça peut paraître rugueux, la croix. Et oui. Mais, vous savez, sans flatterie pour la chair, c'est porteur de salut. Non, ce que tu fais n'est pas bien. Je ne veux pas te dire que c'est bien. Pour te flatter un peu, non, c'est pas bien, moi je regrette, je ne participe pas à ça. Mais je prie pour toi. Et j'aimerais que tu puisses m'écouter un petit moment. J'ai quelque chose à te dire. Parce qu'ils ont besoin d'entendre. Et si on ne parle pas? Et si on ne fait que dire non? Non! On ne va pas loin. Mais on est placé comme des témoins. Amen. Nous devons être des lettres décachetées, ouvertes et lues. Aux yeux de tous. Alléluia. La quatrième chose, tu n'as pas été enveloppé avec des langes. Alors les langes assurent, bien sûr, au nourrissant le confort, la chaleur, ainsi que la protection. Seulement, seul l'amour de Dieu, ce que j'appelle l'amour parfait, est capable de procurer l'image de ce qu'est l'amour, l'amour vrai, l'amour intégral. Amen. L'amour humain, c'est toujours... je t'aime, mais il faut qu'un échange tue. Vous comprenez? Conditionné par ça. Et l'amour de Dieu, c'est l'amour qui s'est donné. L'amour agapé. Hein, c'est l'amour qui se donne entièrement. C'est ce qu'il a fait. Amen. Et même les meilleurs parents ne peuvent remplacer cet amour dont tout individu a besoin de connaître un jour. Nous pouvons être les meilleurs des parents, mais nous ne pouvons pas assurer le salut de nos enfants. Seul l'amour de Dieu peut nous conférer, je dirais, eh bien, cet état. Je suis sauvé. J'ai été pardonné. Ézéchiel, chapitre 16, verset 6, dit « Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis « Vis dans ton sang ». Je te dis « Vis dans ton sang ». Alors, là, il y a un verset qui semble... un petit peu difficile. Ce que Dieu a voulu dire, c'est qu'il souhaitait que malgré le sang dont elle était recouverte, eh bien, elle vive. Amen. Alors, pour bien comprendre, j'ai pris d'autres traductions. Hein. D'abord, la Bible en français courant. « Je suis passé près de toi et j'ai vu que tu baignais dans le sang. Je t'ai dit de vivre malgré le sang dont tu étais couverte. Et j'ai insisté pour que tu vives. » Ça, c'est la Bible en français courant. Maintenant, la Bible du semeur. « J'ai passé près de toi. Je t'ai aperçu te débattant dans ton sang. Alors je t'ai dit, il faut que tu vives même au milieu de ton sang. » Oui, je t'ai dit, il faut que tu vives même au milieu de ton sang. Alors ces propos n'avaient rien d'une menace, d'une condamnation à vivre en restant couvert du sang, non pas du tout. Mais à être couvert de sang, c'est plutôt être en relation avec le péché, qui est semblable à un crime, on le sait. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous, c'est le péché. Amen. Le prophète Isaïe dira ceci, Isaïe chapitre 1, verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Et là, je prends la Bible du semeur, dans Isaïe 1, verset 18. « Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. » Voilà ce que Dieu veut. Quand je dis qu'il fait le miracle, il nous transforme. Hein, ce qu'il veut, c'est que le pécheur, conscient de son état d'homme et de femme perdu, eh bien, puisse se repentir pour qu'il vive. Amen. Qu'il soit lavé de ses péchés. Et c'est un autre sang qui peut le faire. Le sang qui a coulé de la croix. Le sang purificateur du seul juste que la terre ait connu, Jésus. Amen. Dieu ne veut pas qu'en tant que pécheurs, nous continuions à vivre comme cela, à nous débattre, comme il est dit, dans la culpabilité. Mais il veut que nous sortions de là. Parce que Dieu nous a créés pour être heureux. Pour vivre dans le bonheur. Amen. Et ce bonheur, cette vie véritable, eh bien, elle se vit en lui. Dans sa présence. Amen. À son contact. Dans la suite du texte, il est question du temps des amours. Et au verset 8 d'Ézéchiel 16. « Quand j'ai repassé près de toi et que je t'ai vu, je me suis aperçu que tu avais atteint l'âge de l'amour. Alors j'ai étendu sur toi le pan de mon manteau et j'ai couvert ta nudité. Je t'ai prêté serment pour conclure une alliance avec toi. Le Seigneur l'Éternel le déclare. « C'est ainsi que tu es devenue mienne. » Ça, c'est la version Bible du semeur. Hein. Alors, l'expression peut paraître un petit peu ambiguë, mais il faut voir que ce temps appelé celui des amours désigne tout simplement le moment favorable. Le moment favorable, eh bien, pendant lequel l'homme est disposé à accepter l'amour de Dieu. Amen. Quand j'ai dit au Seigneur, je ne savais pas ce que je disais finalement, « Pourquoi tu ne t'es pas révélé avant ?» Eh bien, ce n'était pas le temps des amours pour moi. Ce n'était pas de l'amour entre, le temps de l'amour entre lui et moi. Ce n'était pas le moment. Amen. Voilà que Dieu, dans sa grâce, attend que l'homme soit disposé à recevoir Jésus comme sauveur personnel, à réaliser la croix, la vie pour lui-même. Cependant, il ne faut pas louper le coche, pas louper le rendez-vous. Il ne faut pas jouer avec cela. Je ne sais pas si quelqu'un au milieu de nous est en train de vivre un petit peu comme cela, un peu de Dieu, un peu du monde, un peu de la famille, un peu... Non, non. Il y a un temps où il faut craquer devant Dieu. Amen. Alors si c'est le jour du salut, si c'est aujourd'hui pour toi, mon ami, ne passe pas à côté. Invoque le Seigneur. Demande-lui pardon. Amen. Parce que Dieu ne prêtera pas toujours, se prêtera pas toujours à ce jeu, bien sûr, au contraire, qui consiste à le faire attendre sous prétexte souvent que son temps, ce n'est pas le nôtre. Et notre temps, ce n'est pas le sien. Oui, mais bien sûr. Mais quand le Seigneur dit lui-même, par la bouche de Paul, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Amen. À force de remettre peut-être des rendez-vous ou passer à côté de certaines réponses ici-bas. Hein? Et vous dites, mince, pourquoi? Ben oui, mais tu avais reçu des courriers et tu n'as pas répondu. Tu avais reçu la facture, tu ne l'as pas payée, on t'a coupé le courant. Hey. Ben oui, c'est la même chose. Le Seigneur t'appelle, il te cherche, il te donne des rendez-vous, il y a des carrefours dans ta vie, il te montre quelle direction prendre, ce que tu dois faire. Mais si chaque fois tu remets en disant « Oh, plus tard, je suis pas assez beau, je suis pas assez belle, je vais faire un peu de régime, je vais... Allez, là, je prends une résolution, je vais être meilleur. » Jusqu'à quand ça va durer? Eh oui, on est des hommes, on est des femmes, des êtres humains. Eh oui. L'auteur de la lettre aux Hébreux enfonce un petit peu le clou quand il dit, Hébreux 3,15, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » C'est-à-dire qu'il y en a qui se sont révoltés dans le passé. Ils ne sont pas rentrés dans le pays, dans la terre promise. Ils sont passés à côté. Eh oui. Ensuite, Ézéchiel parle des soins qui sont adaptés par Dieu. Hein ? Dieu nous connaît. Il nous connaît mieux que nous-mêmes nous connaissons. Eh oui. Au verset 8 et 9, donc Ézéchiel 16, « J'étendis sur toi le pan de mon manteau, je couvris ta nudité, je te fis un serment, je contractai avec toi une alliance, oracle du Seigneur, éternel, et tu fus à moi. Je t'ai lavé dans l'eau, j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi, et je t'ai frotté avec l'huile. » Le manteau, il symbolise l'action du Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement, mais également qui nous convainc aussi de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. C'est Nicky Cruz, hein, quand il entendait, je ne sais plus comment il s'appelle, le pasteur. Wilkerson, David. Quand il entendait cet homme lui dire, Nicky, tu peux me couper en morceaux, mais chacun des morceaux te criera, Dieu t'aime. Ça va faire frémir, moi, j'ai la chair de poule, hein, quand on en parlait. Et oui, Dieu nous aime. Bon, l'amour, il l'a prouvé. Et c'est la croix. C'est sa propre mort sur le bois de la croix. Et oui. Alors, le manteau, l'amour de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le résultat de tout ça, c'est que quand Dieu dépose son manteau sur nous, eh bien, notre nudité est couverte. Et voilà que l'alliance, elle est conclue. Dieu fait alliance avec nous. Et c'est le prophète Ésaïe qui dira ceci, Ésaïe 61, verset 10, « Je me réjouis en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Il y a le lavage de l'eau également, il symbolise l'action purificatrice de la parole de Dieu. Et faisant référence à l'Église, Paul dit ceci, « Afin de la sanctifier, après l'avoir purifié par l'eau et la parole. » Et à titre, il va rajouter, dans le titre 3.5, « Jésus nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, hein, il ne faut pas se rajouter parce qu'on devient bon, qu'on fait des bonnes œuvres, la BA, mais en vertu de sa propre miséricorde. » C'est-à-dire que Dieu a miséricorde de nous, il a compassion de nous, et par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. C'est un miracle. La nouvelle naissance, la conversion, c'est un miracle. Et le plus grand des miracles. Amen. Ça ne peut pas venir d'en bas, ça ne vient que d'en haut. Et oui, dans sa prière qu'il va adresser au Père, Jésus dit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et lors du dernier souper, Jésus s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Quand ce fut le tour de Pierre, qu'est-ce qui se passe? Jean chapitre 3, 13, verset 8. Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, il était bourricot un peu des fois, Pierre. Hein. Excusez-moi. Hein. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Est-ce que tu veux être avec moi ou pas? Est-ce que vous voulez être avec le Seigneur? Et si vous l'avez purifié par la parole de Dieu? Hein, pas qu'une fois. Hein. Alors, il est question également du sang qui disparaît. Il symbolise bien sûr le pardon qui est une manière effective, hein, qui efface tout péché, toute culpabilité par le moyen de la foi en Jésus. Ne vivez plus avec les histoires du passé. Oui, j'ai fait des bêtises, il ne faut pas dire autre chose, mais j'ai fait des choses mal. Mais je me suis repenti. Et si des fois ça revient là, Ça ne vient pas de Dieu. Mais ça vient de l'ennemi. Ce qu'on appelle l'accusateur des frères, qui veut nous rappeler tout simplement ce que nous étions. Ah, pas grand-chose, hein, excusez-moi. D'être pitoyable. Mais je me rappelle que j'ai été lavé, purifié, sanctifié dans le sang de l'agneau. Amen. J'ai reçu le pardon de mes péchés. C'est fini. Mes péchés, il les a jetés au fond de la mer. Un jour, un frère recevait un pasteur, je ne sais plus de quel pays, mais on savait qu'il avait un beau ministère et il avait un frère. Et il avait un problème avec ce frère, c'est que ce frère de l'église, bien sûr, qui à chaque fois disait « Alléluia !» Alors les gens, ils regardaient, ils écoutaient, mais ils entendaient aussi le frère, quoi. Alors il disait « Je sais qu'avec lui, il va me le répéter, je ne sais pas combien de fois. » Alors je vais lui demander, il attendait, c'est vrai, il attendait un coup de téléphone, mais il a choisi lui et pas un autre. Tu peux attendre le coup de téléphone dans le bureau. Alors il lui dit, ben d'accord, oui, oui, volontiers, frère, oui. Et puis de la porte du bureau du pasteur, il entendait également la salle. Alors ils entendaient Alléluia, mais c'était de l'autre côté dans le bureau. Donc tout le monde entendait Alléluia, parce qu'il ne le faisait pas avec discrétion. Alors quand tout ça a été fini, le pasteur est allé le voir, il lui a dit, tu as reçu le coup de téléphone? Il a dit, non, non. Alors, dis-moi un petit peu, tu as entendu ce que disait le pasteur? Oui, non, mais il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, d'abord? Il était face au mur, il y avait une map au monde. Il regardait, il y avait les océans, il y avait la terre, il y avait les îles, il y avait tout ça. Et il dit, mais qu'est-ce que tu fais là devant? Parce qu'il disait encore Alléluia devant ce mur. Il dit, mais là je lis, la profondeur est de 13 000 mètres. Alléluia, mon péché il est là-bas. Vous comprenez? Notre péché, il est jeté au fond de la mer. C'est fini, je ne suis plus coupable. J'ai été racheté à grand prix. J'ai été lavé et purifié par le sang de l'agneau. Amen. Le frottement avec de l'huile, il symbolise la douceur divine, la douceur de Dieu. Et cette huile parfumée est bien plus douce que la rugosité du sel. Et ça, c'est l'image de toute la tendresse de Dieu. Dieu est un tendre Père. Amen. Au verset 10, il est parlé du vêtement brodé qui symbolise le vêtement de la justice en Jésus, nous l'avons reçu. Et Paul nous rappelle dans ses lettres ceci. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Et un peu plus loin, Colossiens 3:10, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Enfin, il est dit au verset 13, dans Ézéchiel 16, la farine de fleurs, le miel, et l'huile furent ta nourriture. La nourriture, eh bien, elle symbolise ce dont Dieu nous nourrit. C'est-à-dire qu'il va nourrir ceux qui sont à lui. Il va prendre soin de ceux qui lui appartiennent. Amen. Fleurs de farine, miel, huile, ça représente eh bien, la nourriture spirituelle que Dieu nous accorde en Jésus. La fleur de farine, elle est douce. Elle rappelle le doux caractère de Jésus. Amen. Je suis doux et humble de cœur. Eh oui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est pas formidable? Dans ce monde agité, où les tempêtes se lèvent couramment, constamment et de plus en plus. Il y a aussi le miel qui est évocateur de la capacité nutritive de la parole de Dieu. Deutéronome 32, verset 13, Moïse s'adresse à Israël et il le rappelle que Dieu l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus pur. Alléluia, le miel du rocher. Le rocher des âges, le rocher qui suivait Israël dans le désert. C'est pas le Seigneur, ça? Il te suit tout le jour. Amen. Il veut te nourrir, il veut que tu sois rassasié. L'huile, elle annonce l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Il est donné par le Seigneur glorifié. Et également tous ses dons, ses charismes. Amen. Et enfin, et c'est la meilleure conclusion qui soit, versets 13 et 14, c'est le témoignage, je dirais, à la gloire de Dieu. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie, d'étoffe brodée. Tu mangeais de la fleur de farine, du miel et de l'huile. Tu devins de plus en plus belle, digne de la royauté. Alléluia. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, oracle du Seigneur l'Éternel. Moi, je me suis réjoui. Je suis fils du roi. Prince. C'est mon statut. Hein. Je suis fils du roi des rois. Je suis devenu par ma conversion. Amen. Par mon attachement à lui. Alléluia. Pas formidable? Je suis riche. Je suis riche. Vous me regardez? Ben oui, je suis riche. Ah, mon compte en banque, il n'est pas plein. Hein. Mais je suis riche de tout ce qu'il me donne. Alléluia. Ça, c'est un petit peu ce que produit le Seigneur hein, pour ses enfants. Bien sûr, il y a pour nous la nécessité de veiller, hein, tout simplement. Et la suite de la parole prophétique montre, je dirais d'une manière affligeante, pour ne pas dire autre chose, qu'il faut veiller et ne pas déchoir, ne pas se tourner à droite ni à gauche. Non, il l'a dit à Josué. Ézéchiel, chapitre 16, versets 15 et 16, et je conclue avec cela. « Mais tu t'es confié dans ta beauté. » C'est dangereux quand on commence à être un petit peu fier. Moi, je suis fier d'appartenir au Seigneur, mais sans lui, je ne suis rien. Il faut que je me rappelle sans arrêt. Vous voyez hein, tu t'es confié dans ta beauté, tu t'es prostitué à la faveur de ta renommée. Tu as prodigué tes prostitutions à chaque passant. Tu es devenu sa chose. Tu as pris de ses vêtements, de tes vêtements. Tu t'es fait des hauts lieux avec les étoffes bariolées et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Moi, je dis, il ne faut pas que ça arrive. Mon frère, ma soeur, qui que tu sois, veille sur ta vie. Fixe des rendez-vous avec le Seigneur quotidiennement. C'est ce qui va te tenir et te garder. Quand il va y avoir quelque chose d'imprévu qui va arriver, au lieu de buter là-dedans et d'avoir un comportement qui n'est pas en adéquation avec la parole de Dieu, avec le message que tu veux délivrer par ce que tu es, eh bien, il faut qu'il y ait cette relation entre le cordon, hein, le cordon qui te relie au Seigneur. Amen. Il faut le garder bien présent. Alléluia. Voilà ce que Dieu vous fait, ce que Dieu veut faire pour vous. J'ai titré mon message « Les soins divins, les soins de Dieu, il prend soin de nous. » Amen. Même quand nous ne le connaissions pas, il avait choisi tout simplement de nous visiter. Il l'a fait autant voulu, autant pour nous c'était propice. Gloire au Seigneur. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir rappelé certaines choses. Seigneur, ce n'est pas des nouveautés, mais c'est en tout cas ce que tu fais chaque jour pour nous. Tu as choisi tout simplement de nous sauver, de faire de nous, Seigneur, des héritiers de ton royaume. Et ne voulons pas perdre cet héritage. Nous voulons aller jusqu'au bout. Alors merci de nous aider à marcher en nouveauté de vie. Continuer tout simplement à marcher avec toi, même quand c'est difficile, même quand le soleil semble se cacher, même quand les nuages semblent devenir de plus en plus épais. Toi, tu ne cesses d'agir et de vivre. Tu ne cesses de nous voir. Alors Seigneur, que nous-mêmes nous puissions réaliser que malgré les difficultés de la vie, tu es là et tu veilles sur nous. Tu prends soin de nous. Tu veux encore nous remplir, nous donner avec abondance. Bénis cet auditoire. Que chacun de tes enfants puisse trouver encore ce matin ce dont tu avais prévu pour lui ou pour elle. Et à toi la gloire, Seigneur. Amen.